bonsoir. Vous écoutez bien, comme d'habitude, le lundi à 7h, Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. C'est l'heure du Canu Info du lundi avec Jean-Pierre et Michel dans les studios et Robert en duplex pour aborder l'actualité internationale, nationale, voire locale. Alors, actualité internationale, ben tiens, pourquoi ne pas ouvrir en faisant un petit hommage, un petit signe à Von Gwenglap, dit plus grand chose à grand monde aujourd'hui, mais un général de la paix, comme il s'appelait lui-même, c'est assez sympa, il n'y en a pas tant que ça. Général de 102 ans, donc qui a quand même fini par lâcher le morceau. Il avait traversé le siècle avec pas mal d'histoires, plus ou moins heureuses. En tous les cas, c'est l'homme qui a su vaincre Dien Bien Phu, les Français, puis après a su tenir en échec, et on peut même dire vaincre les Américains, jusqu'à l'entrée à Saïgon. C'était pas tout seul, évidemment, hein, mais disons que ses qualités de stratège l'ont conduit donc à s'opposer aux impérialismes sur son pays et à finalement réunifier le Vietnam sous l'égide du Vietnam du Nord. Donc Von Nguyen Gap est décédé la fin de semaine dernière, et un certain nombre de gens dans son pays et ailleurs lui rendent hommage, bien sûr. Toi aussi, Robert ?
Oui, oui, tout à fait, oui. D'autant que je me souviens de cette période de mai 1954, la chute de Dien Bien Phu, où la France était traumatisée par ce qui se passait. Et ce qui est intéressant, c'est que on fête justement en ce moment le 40e anniversaire de la signature des accords de Genève qui avaient mis fin à la guerre du Vietnam avec les Américains, naturellement. Et puis, c'est la coïncidence des deux événements est importante. Je me souviens qu'en même temps, ça mettait en exergue les qualités, le courage de Pierre Mendès France, qui pour la France, effectivement, permettait qu'on sorte de ce bourbier impérialiste. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de noter que les Vietnamiens auraient pu en faire un chef d'État. Ils le méritaient, et puis tous les Vietnamiens, personne n'y aurait trouvé ombrage. Surtout après, naturellement, pas du vivant d'Ho Chi Minh, mais après la mort d'Ho Chi Minh. Ça ne s'est pas fait parce que, effectivement, les Vietnamiens, bonne tradition des pays communistes, ne mettent jamais un militaire à la tête de l'État. On peut lui donner des galons, comme ça puisse faire, y compris avec Staline. On peut honorifiquement donner des titres de militaire à un homme d'État politique, mais. Alors ça, c'était à la fois pour respecter un principe que l'armée restait toujours soumise aux politiques, mais aussi c'est une manière, effectivement, pour sans doute beaucoup d'hommes de l'appareil du Parti communiste de l'époque de se préserver du prestige de cet homme, et donc de pouvoir, eux, garder peut-être leur petit coin de terre au sein de ce gouvernement, de ce qu'allait devenir le Grand Vietnam.
Ouais. Michel, tu avais envie de parler de Von Nguyen Gap ou d'autre chose, si on peut dire.
Non, je veux dire, effectivement, oui, c'est devenu un personnage historique, quoi. C'est que dire qu'aujourd'hui, dans les écoles de guerre qui forment donc nos officiers supérieurs, que ce soit à Saint-Cyr ou aux États-Unis à West Point, donc ces stratégies sont enseignées. C'est dire que.
Alors, lui se revendiquait de la stratégie. Il n'était pas pour Napoléon l'homme politique, mais le militaire Napoléon, il avait beaucoup d'admiration et il a toujours dit qu'il avait appliqué les règles que Napoléon s'était données, enfin attaqué par surprise, des choses comme ça. Et voilà, donc c'est un, un homme bien sûr cultivé. Au départ, ce n'était pas un militaire, hein, je crois que c'était un enseignant. Enfin, il avait commencé comme ça, puis les circonstances historiques l'ont amené à devenir le grand dirigeant militaire de la période de la libération du Vietnam. Voilà, autre sujet. Tu avais une idée ?
Vietnamien ? Non.
Pas forcément, non. Non, on ne parle pas souvent du Vietnam, donc c'est une occasion. Hein.
Non, on peut parler, par exemple, d'Afghanistan.
Ouais.
Juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est la clôture des candidats pour les élections présidentielles qui doivent se tenir le 5 avril prochain, donc le 5 avril 2014. Sachant que l'année 2014 risque d'être importante pour l'Afghanistan, puisque officiellement c'est le départ des troupes combattantes américaines, enfin, ou du moins sous l'égide de l'OTAN, je répète, des troupes combattantes, sous-entendu que les États-Unis ont bien l'intention de laisser des troupes sur place, de type coopération, formation, hein, entre guillemets. Le sous-entendu, là aussi, c'est qu'ils attendent de ce nouveau gouvernement, donc de ce nouveau président qui devrait être élu, qu'il signe donc un accord de coopération permettant donc l'établissement ad vitam aeternam peut-être de troupes états-uniennes sur le territoire afghan. D'où l'importance effectivement de choisir un bon candidat. Alors, quel est ce bon candidat ? Excite Hamid Karzai, donc cette marionnette qui a bien servi, mais qui est complètement essorée. Il y a son frère donc, qui se présente à Hamid Karzai, Kayoud, donc, mais bon. On ne connaît pas trop le personnage, si ce n'est effectivement qu'il fait partie de cette illustre famille des Karzai, qui est très connue chez les Pashtuns, qui est en business surtout, que ce soit des deux côtés de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, que ce soit aux États-Unis. Mais il y a aussi donc, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Rasoul, francophone. Il y a Ashraf Ghani, l'ancien ministre des Finances, mais aussi, surtout, la grande surprise, c'est Abdul Rasoul Sayaf. Abdul Rasoul Sayaf, c'est ce fameux chef de guerre qui, en son temps, avait hébergé un fameux Oussama Ben Laden et ses acolytes, qui a formé toute l'international islamiste en Afghanistan, qui s'est propagé aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui, donc, il revient donc par la voie officielle, à savoir candidat pour le poste de président donc de l'Afghanistan. Alors tout ça, alors que dans le même temps, il y a un rapprochement, du moins des pourparlers qui se font entre les autorités américaines et des représentants talibans, on ne sait pas trop lesquels, au Qatar, à Doha. Et on voit bien donc l'enjeu là pour les Américains. Les Américains ne veulent pas dire qu'ils ont perdu d'un point de vue militaire ce conflit-là, donc ils n'ont pas réussi, après plus de 10 années d'occupation, donc à résoudre le problème du terrorisme, on appelle ça taliban, Al-Qaïda, enfin comme on veut. Donc ils essayent maintenant d'attirer donc dans le jeu politique quelques représentants talibans, et pas des moindres, puisqu'on veut ni plus ni moins donc autoriser Sayaf donc à se porter candidat, c'est pas rien, en espérant que celui-ci donc trouvera donc un modus vivendi donc avec les Américains, avec leur intérêt, et on l'a dit en préambule, hein, avec donc ce fameux donc accord que les Américains entendent signer avec le futur président donc de coopération.
Des élections en Afghanistan, ça a un sens, pas seulement parce que il peut sortir des élections à un président qui représente effectivement la volonté du pays, c'est pas évident.
Jamais, c'est pas possible. Non, en disant ça, l'Afghanistan est un confetti par nature, où chacun joue de ses influences, et c'est un état éminemment féodal, qui est très enclavé, avec cette majorité relative pashtoune, et donc le pouvoir reviendra à un Pashtoun. Il ne peut pas en être autrement. Donc excite Abdullah Abdullah, l'ancien bras droit du commandant Massoud, parce que Tadjik, représentant que 20% de la population, et excite Dostum, mais dans le même temps, on voit bien que ces différentes composantes donc, s'allient donc, et trouvent leur intérêt de manière à être représentées aussi au pouvoir. Alors, c'est cet équilibre très très précaire qui reste à faire. Alors, va-t-il être possible avec un Sayaf? On peut en douter, mais il semblerait qu'en coulisses aussi, c'est pas innocent, hein, que ce soit peut-être un pion, si j'ose dire, ou un pari des États-Unis que de le mettre sur le jeu politique de manière à essayer donc d'amadouer donc les talibans qui eux sur le terrain ne s'arrêtent pas, hein, puisque les opérations donc sont en progression constante et au dernier chiffre donc pour l'année donc de 2013, donc pour déjà le premier semestre, il y a eu 50% de plus de morts par rapport à l'année 2012. Donc on voit bien donc une recrudescence donc des attaques contre principalement l'armée afghane, puisque les forces de combat sont de moins en moins présentes et sont recroquevillées, retranchées dans leurs bastions, que ce soit les Américains, les Français ou leurs acolytes. Et c'est principalement l'ANA, donc la nouvelle armée afghane, qui subit les coups de boutoir donc des talibans.
Voilà, Robert, tu avais un autre sujet entre l'Égypte, la Syrie.
Oui, je vais peut-être évoquer les ennuis de Barack Obama. Mm-hmm. Barack Obama qui ne peut pas voyager puisqu'on ne lui donne plus de sous. Enfin, ça c'est l'image. Il pourrait bien voyager, mais il a des gros soucis puisqu'il doit absolument arriver à faire accepter par les républicains son budget. À un moment assez important, et les républicains ont choisi l'espace où Obama devait se rendre au rassemblement de l'APEC. L'APEC, c'est les pays Asie-Pacifique, sorte de zone plus ou moins de libre-échange qui regroupe 21 pays. Donc on comprend bien, entre les deux côtés du Pacifique, donc aussi bien les gens d'Asie que les gens des Amériques, 21 pays dont les principaux, les deux principaux de part et d'autre, sont les États-Unis et la Chine. Donc Obama a dû renoncer à ce voyage. Il aurait pu y aller en se disant que de toute façon, il y avait des gens pour s'occuper de trouver les quelques voix qui lui manquent chez les républicains pour arriver à faire passer son budget. Mais il préfère rester. Il veut en même temps montrer que les républicains, non seulement ce sont des conservateurs, puisque c'est un peu ce qu'il dit, lorsque ces républicains mènent la bataille contre le plan social et le plan de sécurité sociale, mais en plus ce sont de mauvais patriotes, puisqu'ils empêchent le premier représentant états-unien d'honorer partout le prestige, la grandeur et la force du pays. C'est donc cette situation, c'est assez paradoxale pour les Américains et pour Obama personnellement. Là on comprend bien que on retrouve bien quand même un clivage, on va dire politique. On peut pas dire vraiment droite gauche, mais c'est un clivage droite dure contre centre gauche. Bon, pas comment qualifier le positionnement politique des démocrates, c'est pas comparable à ce qui se passe encore pour quelque temps peut-être en Europe. Alors, il se trouve qu'il y a une date fatidique aussi, c'est le 17 octobre. Le 17 octobre, on n'en est pas loin, le 17 octobre, il y a une obligation d'honorer, en quelque sorte, la dette dans le cadre de cet échange entre les deux rives du Pacifique. Or, on sait que les Américains sont très endettés. Alors, bon, ils en tirent un grand profit de cet endettement. Mais endettés... Et il y a une espèce de convention qui veut que les ratios liés à cet endettement sont dépassés. Et il faudrait donc il faut que les Américains fassent quelque chose. Alors, est-ce qu'ils font marcher la planche à billets au-delà de faire passer le budget? Mais toujours est-il que dans cette confrontation, qui est donc, on l'a dit, une zone de libre-échange de l'APEC, Pacifique, États-Unis, Pacifique, oui, États-Unis, eh bien, il est important que ça s'appelle, alors, d'une expression très 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 symptomatique, le principe de défaut, c'est-à-dire que, il faut que les Américains fassent quelque chose sur le plan budgétaire. Or, tout est bloqué. Et Obama, eh bien, il se fait du souci.
On va lui venir en aide, allez. autre sujet, l'Égypte, par exemple, bien sûr, où les choses se répètent. Évidemment, il y a eu tellement de morts lors des dernières manifestations et répressions il y a quelques semaines que quand on nous annonce 50 morts hier dans des affrontements entre la police et les manifestants des frères musulmans, la presse, en tous les cas, trouve cela assez banal et j'oserais presque dire quasi normal, quoi. C'est rentré dans la banalisation. Donc, 40 ans après la victoire de la guerre du Kippour, enfin, ce qui est considéré comme tel en 73, pour cette commémoration, manifestation dans les rues, à la fois soutien au nouveau gouvernement, cela était autorisé, et bien entendu, il n'y a pas eu de mort, apparemment. Par contre, les frères musulmans en ont profité pour, une fois de plus, protester contre l'éviction de Morsi. Et là, les affrontements et la répression s'est abattue sur eux, quoi. Ce qui, bon, dans une, ne les démoralise pas plus que ça, on va dire, dans une perspective politique telle qu'ils la voient, pour eux, ça fait un petit peu partie du fonctionnement normal d'aller comme ça à l'affrontement, quitte à ce qu'il y ait un certain nombre de morts. C'est pas ça qui va les démobiliser.
C'est pas ça qui va les démobiliser. Le danger là dans ce coup d'État, dans cette histoire, parce que ne l'oublions pas, c'est un président légitimement élu, donc qui a été destitué. N'en déplaise effectivement à tous ceux qui se reconnaissent comme démocrates. Oui, c'est un président issu des frères musulmans. Mais bon, voilà, par les bulletins, donc il a été élu. Il a été destitué par l'armée pour ses résultats qui étaient catastrophiques, mais dans un contexte économique avant tout qui était déplorable. Et il n'est pas dit que la junte militaire, donc je ne sais pas comment on peut l'appeler directement, du général Al-Sisi, s'en sorte mieux d'ici quelques mois, d'ici un an, lorsque leurs concitoyens égyptiens se rendront compte que c'est pas mieux. Ce qui est dangereux pour l'instant, c'est la volonté, et la volonté avec l'approbation, puisque le silence vaut pour approbation, hein, c'est le cas de toutes les chancelleries occidentales qui ne disent rien, qui continuent donc à verser leur aide, leur coopération à la junte militaire égyptienne, on peut dire des choses comme ça. Et ce qui est grave, c'est la volonté donc de vouloir donc interdire donc les frères musulmans. Bien sûr, les anciens soutiens directs à Morsi, à savoir la Tunisie, Turquie ou Qatar s'en émeuvent, mais aussi d'autres pays, et notamment la Russie, qu'elle avait quelques sympathies pour Morsi, Landlois, mais elle se rend compte effectivement de la difficulté demain donc à établir un régime dit démocratique en faisant abstraction donc qu'on le veuille ou pas, de 20-25% donc du corps électoral. Donc à un moment ou à un autre, ces gens qui vont pas se retrouver dans ce processus initié par le printemps arabe, donc par le processus démocratique, eh bien ils vont aider peut-être de l'extérieur, hein, financés peut-être par Doha ou d'autres, commencer à commettre des attentats. Or ça a été le cas aussi aujourd'hui, puisque 5 soldats égyptiens ont été tués à Ismaïlia, donc dans le nord de l'Égypte, alors qu'ils faisaient patrouille. Un attentat donc à la voiture piégée aurait fait aussi des morts. J'ai pas plus d'informations là-dessus. Qu'on a tiré à la roquette dans des émetteurs en périphérie du Caire. Donc on voit bien que outre descendre place Tahrir et manifester pour le soutien à Morsi, on risque aussi d'avoir une contestation qui risque d'être beaucoup plus sanglante dans un pays qui est toujours à la limite donc du basculement. Le danger, c'est si personne en Occident ne recadre un peu la junte militaire, le danger, c'est que effectivement l'Égypte aille à une guerre civile dans les mois qui viennent.
Robert ?
Oui, il semble que en attendant, oui, comme ça a été dit par ailleurs, en se rendant en Arabie Saoudite, le président Mansour est allé chercher de l'argent, hein, très probablement, et puis en même temps, sans doute remercier les salafistes le gouvernement qui est plutôt salafiste, d'avoir été discret et même d'avoir encouragé ce qui s'est passé contre les frères musulmans.
Oui. Alors d'autres musulmans radicaux, ou du moins évincés du pouvoir, c'est en Tunisie. Alors là, c'est peut-être pas fait, mais enfin, il semble que sous une par des négociations, donc on ne sait pas trop comment qualifier, Ennahda serait peut-être prêt à renoncer au pouvoir qu'il avait acquis par les urnes, mais là, dans un processus sans violence, c'est-à-dire dans un accord qui signifierait leur départ du gouvernement pour laisser place à un gouvernement de société civile. On a un peu du mal à y voir clair et à y comprendre quelque chose, quoi, parce certes, leur présence au gouvernement n'a pas stabilisé les choses et engendre pas mal de résistance, mais enfin bon, ils étaient là et on a envie de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils accepteraient de s'en aller aussi facilement?
J'ai pas plus d'éléments.
Ça reste perplexe.
Ça reste effectivement très perplexe.
Alors on nous explique qu'il y a 10 partis au pouvoir, 20, qu'il y en a 50 dans le pays, et que c'est des arrangements entre tous ces partis-là qui seraient en finalité l'aboutissement dans cet accord. Bon, c'est à suivre, mais ça, c'est vrai que ça pose question, quoi. Robert, t'as pas plus de précision?
Non, simplement que c'est le seul pays du Maghreb et puis même des pays arabes qui a dans son périmètre à soi politique une si puissante organisation syndicale qui est l'UGTT. Et je crois que c'est un peu l'UGTT qui actuellement fait et défait les gouvernements, parce que ce gouvernement, comme les précédents, ce sont des gouvernements effectivement à connotation sur le plan religieux musulman, mais sur le plan social, économique, plutôt traditionnel, c'est-à-dire conservateur, sans perspective progressiste. et même souvent avec pratiquant encore dans certains coins l'affrontement avec les forces syndicales. Et c'est aussi une des clés de cette Tunisie, c'est que c'est une Tunisie qui veut, qui a ce paradoxe et puis en même temps cette originalité de pousser un peu plus loin le processus de son printemps, c'est-à-dire l'amener sur le véritable terrain qui était le sien. C'était certes les libertés, mais c'était aussi la transformation sociale, à défaut de dire la révolution sociale.
Voilà, autre sujet, j'ai le choix et l'embarras, je me tourne vers mes collègues. Michel, il y avait autre chose dont tu avais envie de parler?
Juste, oui, c'est quelques informations, donc... sur la Libye, la Somalie, sur ces opérations militaires donc des États-Unis.
Les opérations de rétorsion américaine face au terrorisme islamiste. On peut appeler ça comme ça, non?
Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, la première surprise déjà, c'est que c'est de toute évidence des opérations donc commando. Là où ces dernières semaines, ces derniers mois, les États-Unis nous avaient habitués donc à leur chasse à l'homme via drone Predator. Là, on a été surpris de voir qu'ils ont essayé une opération en Somalie qui a échoué, mais une opération menée par les Navy SEALs, donc leurs commandos spéciaux, et qu'ils ont par contre réussi donc à capturer Abu Anas al-Libi en Libye. Alors, je ne le connaissais pas, moi, personnellement, Abu Anas. Donc, il aurait été déjà recherché donc, pour être derrière les attentats donc, contre les ambassades américaines à Dar es Salaam et Nairobi de 1998. Donc, ça remonte. Assez étonnant comme processus. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ça. C'est pourquoi n'ont-ils pas dégommé le personnage, chose qu'ils ont fait ailleurs, au Yémen, au Pakistan, et même en Somalie, jusqu'à présent. Et pourquoi l'ont-ils capturé? Alors, est-ce que c'est une opération commandée, mais aussi une opération médiatique pour Obama, qui a besoin, alors que ça chauffe un peu pour lui en ce moment à Washington, de se refaire une image donc d'homme de guerre, d'homme à poigne? Et c'est beaucoup plus parlant que nous montrer des images de drones, que nous montrer effectivement les Navy SEALs retournant victorieux de leur mission. Je ne sais pas, j'attendrai d'avoir un peu plus
d'éléments. En tous les cas, c'est une opération clandestine, puisque le pouvoir libyen s'est indigné de l'incursion.
Le pouvoir libyen peut prétexter effectivement d'avoir signé un partenariat stratégique avec les États-Unis, mais qu'est-ce que le pouvoir libyen aujourd'hui? Il faudrait peut-être demander à BHL, qui en sait plus que nous, hein. Sur cette question-là. Le pouvoir libyen, c'est celui effectivement qui déplore déjà la semaine dernière 30 morts parmi ses troupes, tués par des islamistes, on ne sait pas qui, quoi, comment. Le pouvoir libyen, il s'exerce à Benghazi, peut-être, et il s'exerce peut-être surtout à Tripoli. Mais en dehors de ces villes-là, il n'y a absolument aucun contrôle. Et on voit bien que c'est un État en voie de liquéfaction, la Libye d'aujourd'hui. Et on y a participé, nous, grandement, hein, occidentaux, donc à cet état de fait. Donc la réalité aujourd'hui, les États-Unis, il faut les comprendre, s'ils mènent une mission, ils ne savent peut-être pas à qui s'en dresser pour prévenir avant. C'est tout le problème. Chose qu'ils ont faite apparemment en Somalie, où le gouvernement de Mogadiscio, qui contrôle que Mogadiscio, qui est acquis donc à la cause américaine et par Kenyan interposé, eh bien lui était au courant, mais bon, lui c'est son ennemi intime qui a été attaqué.
Oui, tandis qu'en Libye, s'ils dévoilaient l'opération, ils avaient toutes les chances de l'avoir foirée.
Je pense, oui, voilà. Mais c'est dire effectivement sur la solidité de ce partenariat stratégique, hein, et signé entre la Libye et les États-Unis.
À propos de la Syrie, donc on voit Kerry qui se confond en reconnaissance. Il va prendre un lambago s'il continue comme ça devant Poutine, devant el-Assad même, au titre que c'est fou ce que ces gens-là sont coopératifs pour détruire les armes de destruction chimique dont ils disposent. Tout ça en oubliant un petit peu quand même qu'il y a déjà plus de 100 000 morts devant, mais bon. L'importance, c'est de démanteler les armements chimiques. Milton, 50 sites. Pour bien faire, il faudra avoir fini au 1er novembre, c'est dire s'il convient de s'activer et si on se félicite de la coopération des militaires syriens à ce travail de suppression des armes chimiques.
Kerry, qui était le plus virulent de tous les responsables américains après l'attaque chimique de la Ghouta dans la périphérie de Damas, hein, on l'a vu, qui était le premier à demander donc les bombardements imminents sans inspection des Nations Unies. Aujourd'hui, bien content effectivement que la proposition Lavrov-Poutine ait tiré une épine de pied d'Obama, donc il s'était foutu dans cette merde, pour ne pas dire les choses autrement, en instaurant lui-même cette ligne rouge à ne pas dépasser, eh bien, là aussi, hein, c'est à l'intention de l'opinion publique américaine, ces déclarations. C'est dire ô combien j'ai pu être virulent, et là où j'ai voulu frapper et punir Assad, aujourd'hui, grâce à cet accord, hein, grâce à notre pression, en gros, nous avons eu cet accord qui va nous garantir la destruction des armes chimiques syriennes. Donc, c'est une menace en moins pour colistère, pour pas dire allié israélien, hein, dans la région. C'est une menace en moins pour le monde libre, et donc ils s'en félicitent. Mais là aussi, c'est une pure opération de com avant tout à l'intention du public des États-Unis d'Amérique
et du monde entier.
Et oui, par ricochet, du monde entier.
Robert, un autre sujet.
Simplement un mot encore. On peut pas ne pas penser que avec ces dizaines d'experts en explosifs chimiques qui sont sur le sol syrien, c'est pas une certaine manière de aussi d'entrer carrément dans l'appareil militaro-politique syrien. Et donc de ce point de vue-là, il y a quand même un affaiblissement du clan Assad et du clan militaire, et donc d'un certain point de vue, c'est une forme de participer à son renversement, mais effectivement sans en parler, mais surtout avec la manière de l'affaiblir, voire de l'humilier. On sait par exemple que sur cette même question, on se souvient que Saddam Hussein avait refusé. Il le refusait d'autant plus qu'il n'en avait pas, lui. Enfin, bon, il n'en avait pas. Enfin, il en avait, mais je veux dire, il n'avait pas forcément envie que...
Si les Kurdes s'en souviennent encore.
Oui. Mais je veux dire, c'était plus les autres, des armes encore plus puissantes et plus massivement destructrices. Non, c'était tout. Ce que je voulais ajouter, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas... Bon, Kerry peut, les Américains, peut aussi se dire que c'est pas forcément une défaite de leur stratégie.
Ouais. Moi, je ne fais pas tout à fait la même analyse que toi. Je me dis que El-Assad, finalement, il se dit que c'est peut-être pour lui, cette acceptation, le moyen de remettre en place sa légitimité sur le pays, et que, ayant accepté de reculer sur les armes chimiques, eh ben, ça lui donne une certaine aura, un droit qu'il n'a jamais voulu abandonner, à continuer à gouverner le pays.
Ah, mais c'est tout à fait ça.
Ça l'affaiblit quand même. Incontestablement.
Pas sûr, pas vraiment. C'est tout à fait ça. On va se remettre un an en arrière, justement le jour où, donc il y a un an de ça, un peu plus d'un an, Barack Obama nous dressait donc cette fameuse ligne en septembre 2012, une ligne rouge à ne pas dépasser l'utilisation d'armes donc chimiques. Voilà. À cette époque-là, on ne voulait pas entendre parler d'Assad comme partenaire de discussion. Il était hors de question. Aujourd'hui, dans cet accord russo-américain, Assad est partie prenante. Hein. La conférence qui doit se tenir à la mi-novembre, tout ça c'est du conditionnel, à Genève, donc devrait aussi impliquer les représentants de la région, mais aussi des représentants directs du gouvernement syrien. Je doute que Al-Assad soit présent à Genève, mais il est fort à parier que son ministre, ministre d'État ou ministre des Affaires étrangères, y soit. Donc ce n'est pas rien. Là où ils étaient persona non grata pour toute discussion il y a encore moins d'un an, aujourd'hui, donc ils sont remis sur l'échiquier politique. C'est une grande victoire pour Assad, à mes yeux. Oui.
Voilà. Allez, on fait une pause musicale parce que l'heure avant, je m'en rendais à peine compte. Sur fond d'actualité, Francesca Solville chante Bold People.
Vous êtes partis sans fleurs ni confettis, personne à la gare, ni manif, ni bagarre. Vous ne saviez pas, les gars, pour qui sonnait le glas. Vous êtes venus, y aurait eu dans nos rues, si vous l'aviez osé, un drôle de défilé. Mais le comité d'accueil repeignait les cercueils. Vous êtes partis, on vous avait dit, y aura du boulot et des patrons réglo. Vous ne saviez pas, les gars, que ce serait une The Baba. Quand vous êtes venus, y avait dans nos rues de belles limousines, mais plus de place en usine. Fringales et chômage, hôtels de bas étage. Pour lui et pour toi, soi-disant, fait pour ça. Le bal, bal people, des méprisés, des races. Vous êtes partis, on vous avait dit, les femmes devant vous vont tomber à genoux. Vous ne saviez pas, les gars, que ce serait de ce poignet-là. Quand vous êtes venus, il y avait dans nos rues des filles tant bien belles, du parfum des dentelles, et puis les putains, les travelots du matin. Vous êtes partis, on vous avait dit, j'aurai l'aventure, puis de la bonne nourriture. Vous ne saviez pas, les gars, que ce serait merde et rata. Quand vous êtes venus, il y avait dans nos rues des cantines afriques protégées par les flics et les rogatons, coups de pompe dans les roustons. Pour lui et pour toi, soi-disant.
Tisserand pour les paroles et la musique, Bold People, c'était Francesca Solville. Vous écoutez bien Radio Canus 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi. Et nous arrivons à la rubrique nationale. Bon, on peut dire un mot sur effectivement ces 200 immigrants plus ou moins clandestins qui ont vu leur bateau se retourner sur les côtes de Lampedusa avec. Un, ça fait moins d'effets, 200, ça fait beaucoup d'effets au niveau émotionnel, mais le fond du problème, c'est cette politique par rapport à l'immigration, d'une part, c'est aussi les gens qui les ont bourrés dans ces bateaux avec des sommes que ces gens-là doivent payer dans des conditions de transport, d'insécurité maximum, les mafias qui profitent de cette misère, c'est tout ça qui se trouve... Et puis, pour couronner le tout, la politique européenne d'immigration qui n'a pas de nom et qui varie avec des mesures inappropriées à répondre à la demande sociale qui, de toute évidence, s'impose à tout le monde. Voilà, c'est... on peut parler, donc si on parle national maintenant, ben le Parlement va commencer son travail sur les projets de loi de retraite. Il est question de passer à 43 ans d'activité en 2035, ce qu'on peut interpréter comme retarder l'âge légal de la retraite, puisque les gens n'auront pas les années, donc ils seront obligés de travailler plus longtemps. Les hausses des cotisations, la fiscalisation des bonus au-delà de bonus de retraite pour les gens qui ont bénéficié au titre d'avoir eu plus de 3 enfants. La répartition aussi, les comptes personnels de disponibilité vont être en question. Il est question aussi d'offrir aux jeunes la possibilité de racheter les trimestres d'études de 5 à 10 ans. Il y avait 5 ans, ils pourraient racheter 10 ans. Moi, j'ai toujours pensé qu'un jeune travailleur intellectuel était un travailleur et qu'il avait besoin de rien racheter pour valider des années de travail quand il faisait ses études. Mais visiblement, le pouvoir socialiste n'en est pas encore jusqu'à cette vision. Voilà, alors le compte personnel de disponibilité, oui, qui était jusqu'à 52 ans, qu'on veut porter, de pénibilité, pardon, qui était à 52 ans, à 57 ans, et qu'un amendement voudrait porter à 52 ans, ce qui a un coût important, 2 milliards en 2035, donc on peut penser que là-dessus, ça risque de coincer. Enfin, toute une série de mesures plutôt antisociales qui visent à restreindre les droits à la retraite des travailleurs. Robert, tu voulais en dire aussi quelque chose ?
C'est simplement pour souligner une fois de plus que la riposte de la gauche et même de la gauche de gauche est faible, pour ne pas dire inexistante, même si, comme ça va être le cas pendant cette semaine, la CGT est seule, peut-être ici là, peut-être appuyée par avec Sud et la FSU, mais la CGT donc va proposer à travers ses fédérations, ses sections d'entreprise, pas la grève générale, pas des grands mouvements, mais sans doute quelques occasions de manifester et surtout de faire savoir aux médias qu'elle n'est pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Le moyen le plus... Le minimum, c'est d'arriver à faire passer des messages dans la presse pour signaler que les syndicats CGT, Force ouvrière, Sud et FSU sont contre cette réforme. Donc, c'est ce que fait aussi le Front de gauche. Mélenchon, il est revenu encore indirectement aujourd'hui en parlant de, on en parlera tout de suite après, peut-être de Brignoles, en disant que effectivement cette contre-réforme, cette réforme à l'envers, eh bien, il fallait la combattre et qu'elle marquait bien ce que finalement, et j'anticipe un peu que ce qui gonflait les effectifs de l'extrême droite et du FN. Le responsable se trouvait à l'Élysée, pour reprendre la formule de Montebourg. C'est vrai, et le débat sur la retraite qui...
Pas de Montebourg, de Mélenchon, par, non ? Pas de Montebourg, pardon ? De Mélenchon, non ?
Et qu'est-ce que j'ai dit ?
De Montebourg.
Oui, est-ce que j'ai Montebourg pour autre chose ? Mais moi, c'était Mélenchon. Montebourg, lui, il y a longtemps qu'il... Enfin, maintenant, chaque jour, il accentue le retournement de sa veste. Voilà, donc le riposte, certes, pendant toute la semaine, et puis ça sera voté, et puis voilà, c'est-à-dire que la ligne austéritaire va se poursuivre, puisque finalement, si on veut que les gens travaillent plus longtemps et cotisent plus longtemps, c'est parce qu'on pense que s'il n'y a pas d'autre voie pour alimenter les caisses, par exemple, réduire le chômage, réduire le temps de travail, pour les socialistes, ça n'est pas la réponse.
Ouais. Michel ?
Le souci de l'opposition politique ou syndicale à cette réforme, contre-réforme, comme tu dis, c'est la désunion la plus totale. Il n'y aura pas de grève générale, oui, on l'a bien compris, mais je prends l'exemple de la SNCF. Les grandes centrales sont incapables donc de décider d'un jour commun. Cette semaine, la CGT appelle à être débrayée sur une grève carrée de 24 heures. La semaine prochaine, ça sera autour de Sud. C'est des postures de la part des syndicats qui sont là plus pour démotiver, pour de manière implicite faire croire donc aux travailleurs que, comme tu dis, bon, c'est acquis, effectivement, la réforme, elle va passer cette semaine, elle va être étudiée, mais donc ça sera passé, sera amendé, et ce sera juste une contestation de pure forme. Et les travailleurs, les gens ne veulent plus sortir donc pour ces raisons-là. Donc on veut avant tout donc un mouvement auquel les dirigeants politiques ou syndicaux croient pour pouvoir vraiment suivre derrière. Et en ce moment, c'est vraiment ça le souci. On sait ce que vaut sous-gouvernement de centre-droit, appelé Parti Socialiste. Là n'est pas le sujet, mais c'est la très faible capacité donc de tous les leaders syndicaux donc à rameuter les foules, et si ce n'est effectivement juste pour des grèves qui sont des grèves de posture, mais pas des grèves qui visent à changer l'ordre des choses.
Bon, alors Brignoles, on en parlait. Alors, l'extrême centre a gagné. On dit extrême centre puisque on n'a plus le droit de dire extrême droite, sinon on risque un procès. Il faut dire quand même que ceux qui ont surtout gagné, c'est les abstentionnistes, parce qu'avec 65% des inscrits, c'est quand même le gros morceau. Donc si on ramène les 50% des voix d'extrême droite aux 65% d'abstentionnistes, ça fait quand même que un tiers de 50%, 17-18% de l'électorat qui s'est manifesté. Alors évidemment, les absents, on peut considérer les choses comme ça. Si on analyse les résultats électoraux, on tord. On peut penser que dans ces abstentionnistes, il y avait beaucoup de socialistes, sans doute déçus. Les petits et les moyens, classe moyenne, sans doute fortement déçus par toutes les mesures que prend ce pouvoir à leur endroit. Et c'est une manière, eux aussi, de voter donc protestataire. Alors, effectivement, bon, c'est dans un coin un peu particulier où déjà la droite la plus à droite a toujours des bons scores. Sarkozy, 58% au présidentiel. Hein. Donc, on n'est pas entièrement surpris. Néanmoins, le candidat de l'UMP, là, est laminé. Alors, est-ce que c'est ça, mais peut-être pour les gens de l'UMP, en cause leur stratégie de tenter de capter les électeurs du Front National, ça ne marche pas, puisque ceux-ci les délaissent pour aller au FN, 45% pour un certain nouveau venu sur le devant de la scène, Lopez, 30 ans de Front National quand même, et 9% pour un certain Dispar, qui était le candidat local qu'on a un peu mis de côté pour présenter cette tête de liste plus brillante sur cette élection symptomatique. Le Front Républicain n'a pas fonctionné. Alors, bon, tous les politologues s'interrogent sur l'avenir. Et l'avenir, il n'est pas très loin, puisque les municipales, c'est dans 6 mois. Et qu'il va bien falloir se poser toutes ces questions et essayer d'y trouver des réponses.
Mais ouais. En fait, le Front Républicain, c'est pour le deuxième tour. Hein. Et d'ailleurs, il va. Enfin, le PS appelle à ce qu'il fonctionne. On verra bien si effectivement les socialistes vont se décider à aller voter pour le candidat de l'UMP. C'est peu probable. Ce que je voulais ajouter à ce que tu disais, à ton analyse, c'est que le Front National en tant que tel, il a perdu des voix sur l'élection de 2012. En 2012, il a fait 2734 et cette fois-ci, il fait que 2718. Alors certes, il y a l'extrême droite dissidente, mais cette extrême droite dissidente, c'est elle plutôt qui a capté une grande partie de l'électorat de l'UMP qui a perdu 5 points. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un raz-de-marée Front National, contrairement à ce que laissent entendre tous les médias. Et puis il y a aussi la grande confusion à gauche, puisque les communistes finalement n'ont pas voulu, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais le maire Gilardeau, qui est maire PCF de Brignoles, avait été le candidat des précédentes élections, certes. Il avait perdu. Alors donc, les communistes avaient changé. Ils ont mis Caratala en route avec un accord immédiat avec le PS. Et cet accord, ça a été une catastrophe, puisque cet accord a produit seulement 15% de votants. Et à côté est apparu les Verts, qui n'avaient pas de candidat dans les précédentes élections, qui a fait 9%. Donc, confusion complète à gauche, qui aussi, a produit ce que tu disais sur le niveau très élevé d'abstention et puis finalement la victoire quasi certaine maintenant de l'extrême droite. Et le point le plus inquiétant, et je pense notamment aux discussions au sein du front de gauche, c'est que c'est à vérifier de près, mais il semble bien que la stratégie du Parti communiste a échoué, puisque en voulant absolument faire un accord avec un nom pas très connu communiste, avec un accord avec le PS, ça n'a pas marché. Donc, on sait qu'au niveau des municipales, le PS va souvent rechercher, le PC va chercher avec le PS des points d'accord, soit au titre individuel, soit au niveau de ces groupes locaux, voire peut-être qu'il y aura des discussions nationales, ce à quoi s'opposent le parti de gauche et Mélenchon.
Alors, quelques mots du coin des escrocs. Donc, Tapie et son fils, parce que bon sang ne saurait mentir, font reparler d'eux dans une affaire de vente en ligne, Boosta, où il y aurait de l'escroquerie dans l'air à suivre. Et puis, des patrons voyous, il n'en manque pas, puisque Castorama et le roi Merlin n'ont pas respecté les décisions de justice en ouvrant leur magasin dimanche surtout. Et d'autres patrons voyous qui ressortent de la boîte dans laquelle ils étaient depuis 6 années, c'est lui et même, un certain Gauthier Sauvagnac, qui aurait extrait des sommes assez considérables, 15 millions d'euros, une paille entre 2000 et 2007, au titre de la fluidification du dialogue social. Mon Dieu, que cela est bien dit. Sous-entendu, ils auraient engraissé avec ça les syndicats. Ils ont surtout dû engraisser certains partis politiques, sans compter qu'ils ont abondé une caisse à 600 millions d'euros qu'on appelle une caisse de solidarité anti-grève chez les patrons. C'est-à-dire, ça n'existe pas d'aujourd'hui, ça existait déjà il y a 50 ou 70 ans. C'est-à-dire qu'ils ont comme ça des petites sommes à gauche, et quand une boîte est touchée par une grève un peu dure et ils laissent des plumes, eh ben, on vient en aide, non pas aux ouvriers grévistes, vous pensez bien, mais au patronat, qu'il faut absolument soutenir dans sa lutte contre ces ouvriers syndiqués et révolutionnaires. On a connu ça avec dans le Rhône. Je me souviens ici que Maurice Moissonnier nous avait fait pas mal de développement sur ces pratiques dans la région. Voilà, Michel, tu voulais peut-être rebondir sur l'une ou l'autre de ces infos ?
Non, pas particulièrement.
Sur autre chose, alors.
Non, je te laisse le mot de la fin.
Qu'est-ce que dire ? Un mot de la marche des sans-papiers en Île-de-France, hein, qui donc proteste contre les conditions qui sont faites pour obtenir des régularisations. Justifiées de 8 mois de salaire quand on n'a pas le droit de travailler, c'est pas très facile. Et quand ils travaillent, c'est au noir. Et quand ils demandent des documents attestant de leur activité, ben, le patron, évidemment, comme il les embauche au noir, il ne veut pas les rédiger. Donc, c'est la quadrature du cercle. Quoi. Robert, tu as une dernière chose à nous dire ?
Oui, brièvement, parler de nos ministres qui retournent leur veste jour après jour. Je disais Montebourg tout à l'heure parce que j'avais noté que Montebourg, eh bien, il parade maintenant avec les grands patrons du CAC 40, Thomas Renault, Veolia, Atos, Capgemini, etc. Tout ça pour mettre en place l'économie numérique et les 34 projets qui ont été finis par Hollande, on s'en souvient, dans une grande opération médiatique. Grand projet pour réindustrialiser la France. C'est la petite équipe autour de Montebourg, de grands patrons du CAC 40. Et Moscovici, qui ne veut pas être en retard sur Montebourg, eh bien lui va encore plus loin dans sa volonté de faire corps avec le patronat. Eh bien il a eu cette déclaration stupéfiante. Il a dit, eh bien voilà, à propos de ce que nous voulions proposer, c'est-à-dire la taxe sur l'excédent brut d'exploitation, bon, c'est compliqué à décrire, mais...
Oui, puis il est 8 heures, il faut qu'on arrête.
Oui, donc le patronat préfère une surtaxe, la surtaxe sur l'IS, voilà, sur l'impôt sur les sociétés. Donc, Moscovici qui dit, puisque le MEDEF préfère, eh bien, on fera ce que a préféré le MEDEF.
Comme d'habitude. Ouais. Allez, quelques mots de... Juste un clin d'œil sur deux spectacles. Le Square de Marguerite Duras dans la mise en scène de Chevassieu est donné depuis ce soir jusqu'au 26 octobre. Donc, qu'est-ce que je... Ah oui, une soirée Louis Aragon ce samedi 12 à 17h à la Maison des Passages avec lecture de texte, accompagnement musical, 17h et à 17h45, conférence de Pierre Jucan. C'est une soirée organisée par Maison des Passages et la Société des Amis de Louis Aragon et Triolet. C'est une entrée qui est gratuite pour cette soirée de poésie et de politique. Ce Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h. Vous devriez normalement aussi pouvoir l'écouter sur Internet dès ce soir. À lundi prochain. Bonsoir.